En Suisse, selon les statistiques, environ 5 à 8% de personnes sont dyslexiques. Si on rapporte ça à l'école, ça fait à peu près 1 à 2 élèves par classe. Mais que sait-on de la dyslexie? Comment est-elle perçue dans les milieux scolaires? Comment ce trouble est-il vécu au sein même de la famille? C'est le sujet de Format 3 ce matin.
La dyslexie est encore un tabou aujourd'hui. C'est un parcours du combattant pour les parents qui découvrent que leur enfant a un souci avec la lecture. La réalité est que le cerveau d'un dyslexique ne fonctionne pas comme celui d'un autre. L'élève doit alors élaborer un système d'apprentissage de la lecture et c'est loin d'être aisé.
Une soirée est organisée jeudi à 19h30 à Basse-Cour avec une table ronde et la projection d'un film empreinte de dyslexie. Et pour évoquer ce sujet, nous recevons deux mamans, Sandrine Sprunger et Nathalie Moutet. Bonjour.
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 Bienvenue. C'est donc bien par le prisme de la famille que l'on va évoquer aujourd'hui le sujet de la dyslexie. Nathalie Moutet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a incité à organiser la soirée de jeudi ?
Alors pour ma part, déjà c'est parti simplement d'une soirée où j'ai vu le film Empreinte de dyslexie et j'ai trouvé intéressant vraiment dans ce film où on voyait les enfants, ce qu'ils ressentaient, on vit beaucoup de choses aussi à la maison, donc du coup ça nous remet beaucoup à question et ça nous appelle.
Dans le film, on parle du parcours vers le parcours professionnel, hein, notamment dans Empreinte de dyslexie. On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu en deuxième partie. Vous me disiez, la dyslexie est encore un peu un tabou aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, que ça soit au niveau familial ou au niveau dans l'enseignement, qui ne s'imaginent pas vraiment ce que c'est. On parle souvent du D et du B qui est confondu, mais c'est pas cela. C'est beaucoup de choses, il y a plein de choses qui sont liées à la dyslexie. Et c'est ce genre de choses qu'on aimerait que les gens sachent et comprennent. Et c'est l'occasion vraiment d'en parler avec des gens qui sont reconnus et également des personnes comme nous, simplement des parents.
Qui deviennent des experts, gentiment.
Gentiment, on doit un petit peu, oui, effectivement.
Vous avez découvert comment la dyslexie chez vos enfants respectifs, à quel moment c'est arrivé et puis comment ça s'est passé, cette découverte,
Sandrine?
Alors, depuis assez jeune, en fait, je me rendais compte qu'il avait de la peine à s'exprimer, à parler. Donc, il a parlé assez tard, vers l'âge de 3 ans. Donc, par rapport à mon aîné, je voyais que c'était quand même un petit peu plus difficile. Après, il y a aussi au niveau des jeux qu'on faisait en famille, ou la difficulté de comprendre les règles d'un jeu. Et là, de nouveau aussi, de s'exprimer pour poser des questions, comme le jeu « Qui est-ce ?». On doit vraiment interroger les autres participants pour trouver quel est le personnage qu'ils ont. Et puis, je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, si justement, déjà à l'école enfantine, je me disais « ce serait peut-être bien d'aller voir une logo », parce qu'ils ne faisaient pas des phrases complètes.
Et chez vous, Nathalie ?
Alors moi, comme quoi c'est différent chez chaque enfant. Moi, pas du tout. Je ne me suis pas posé la question avant vraiment l'entrée à l'école primaire où il fallait faire l'effort de lire, d'écrire. Donc c'est arrivé, il avait bien 8 ans. Donc au niveau des lettres, l'écriture, on doit apprendre les lettres, les A, les B, on voit rien. Mais après au niveau de la lecture, c'est aussi un petit peu les maîtresses qui se sont posées les questions. Et là, après coup, on commence l'engrenage.
Alors, on va écouter maintenant Sandrine Gamba-Wursten, logopédiste, qui nous parle de la dyslexie et du travail qu'elle réalise aussi bien avec les enfants que les adultes.
C'est pas du tout un problème de lésion cérébrale, ni c'est jamais lié à un problème d'intelligence, la dyslexie. Par contre, on sait que ce sont pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent chez un enfant dyslexique que chez un enfant qui ne l'est pas. Et l'enfant dyslexique apprend à activer d'autres zones du cerveau pour compenser finalement ses difficultés. Pour chaque enfant, la dyslexie est différente. Je pourrais presque dire, si je ne fais pas de théorie, qu'il y a autant de dyslexie que d'enfants dyslexiques. Parce que chacun a une problématique particulière et une façon de la gérer qui lui est propre. Et l'enjeu, c'est surtout de comprendre les forces de l'enfant sur lesquelles on pourra s'appuyer pour faire la thérapie. Puis ces forces, elles évoluent et la thérapie évolue avec ça.
On parle de moyens, d'objets, de livres, de jeux. Quels sont ces livres, quels sont ces jeux? Avec quoi est-ce que vous allez travailler avec l'enfant? Vous avez un livre devant vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, par exemple?
Alors, on a des méthodes. Ce livre-là, c'est une méthode d'entraînement à la lecture et dyslexie. Là, c'est vraiment des exercices pratiques. C'est pas le côté le plus ludique pour l'enfant. Donc, en général, quand même, la grande partie de la thérapie se base plutôt sur des aspects plus ludiques, plus plaisants. On essaye avec l'enfant de donner du sens à la lecture, qu'il puisse se réapproprier la lecture comme quelque chose qui fait plaisir quand même, parce que sinon, c'est barbant.
Il y a un rapport particulier qui se crée entre la logopédiste et l'enfant au moment du travail.
Il y a un rapport particulier qui se crée au niveau de la relation thérapeutique où il y a un climat de confiance qui est indispensable pour faire une thérapie puisqu'il s'agit vraiment d'une thérapie et ce n'est pas de l'enseignement. C'est sûr, on aimerait avoir une baguette magique et on n'en a pas. Et c'est difficile pour moi et c'est difficile pour l'enfant. Une thérapie, ça dure des années. On avance par petits pas. Il y a des moments où on a l'impression de reculer et puis on ravance de nouveau. Mais c'est vraiment en regardant dans le rétro assez loin qu'on voit vraiment l'évolution. L'enfant doit vraiment accepter qu'il ne sera pas venu deux, trois fois et puis hop, on aura réparé quelque chose. On ne peut pas le réparer. On apprend à fonctionner différemment et ça prend du temps.
Sandrine Gamba-Wursten, qui est donc logopédiste, une petite réaction. On a beaucoup parlé du rapport entre la logo et l'enfant. Il y a aussi un rapport entre la logopédiste et les parents qui est important. Nathalie ?
Oui. Moi, je pense, oui, c'est important. Pour ma part, je trouve que je dis très facilement les choses à la logopédiste. Enfin, si j'ai des soucis avec une épreuve qu'il aurait faite, parce que bien sûr, nous, on aimerait faire au mieux pour notre enfant, mais on ne sait pas trop non plus. Quelque part, on se dit, est-ce que c'était trop cette épreuve? Est-ce que c'était trop pour lui ou pas? Donc là, à ce moment-là, je me tourne vers la logopédiste. Et puis, elle peut prendre contact avec le professeur ou des choses comme ça. Donc effectivement, oui, c'est vraiment très bien de travailler ensemble. Donc pour ma part, j'ai vraiment de la chance d'avoir des professeurs et une logopédiste qui sont à nos écoutes.
Parce que du coup, c'est des gens qui ont un regard neutre, parce que quand on est avec son enfant, qu'on essaye de l'accompagner au mieux dans son parcours scolaire notamment, y a un côté affectif, évidemment, et puis on a envie de le pousser à réussir mieux, etc. Ça fait du bien d'avoir justement ce regard plus extérieur.
Oui, alors c'est un soutien aussi, je trouve qu'elle nous rassure beaucoup. Et puis, elle nous explique aussi les difficultés de notre enfant. Et puis, cette façon, justement, comme disait Madame Gamba, de fonctionner différemment pour pouvoir contourner leurs difficultés. Et puis, c'est vrai qu'en tout cas, moi, je trouve que ça rassure beaucoup de savoir qu'elles sont là, que notre enfant apprécie aussi ces moments avec leur logopédiste. Que ça les encourage et puis on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place et puis qui progressent.
Et on a besoin aussi qu'on nous le redise aussi, parce que des fois on est dans des périodes où on se dit « Ah ben là ça va mieux peut-être », et finalement non.